Et oui, grand honneur pour moi de recevoir celle dont on a présenté le livre toute cette semaine. J'en redonne le titre, La nouvelle symphonie des étoiles, l'humanité face au chaos.
C'est au cosmos.
Au cosmos, au cosmos, au chaos. Ça, c'est drôle. Ah bah, allez là, Sylvie, vous l'entendez. L'humanité face au cosmos. Drôle de lapsus. C'est aux éditions Odile Jacob. Sylvie Vauclair est notre astrophysicienne maison ici à Radio Présence. Elle sévit tous les jeudis, mais nous la partageons avec le monde entier, hein, puisque les travaux de Sylvie ont une renommée qui dépasse largement nos frontières, notamment à travers ses près de 300 publications dans des revues scientifiques internationales. Bonjour Sylvie Vauclair.
Bonjour Isabelle.
Merci d'être en studio de bonheur. Je vois que même de bonheur, hein, vous guettez le moindre faux pas et vous avez bien raison. Ce matin, je vous propose de nous faire découvrir votre métier d'astrophysicienne. C'est un métier mystérieux, hein, pour beaucoup d'entre nous, un métier passion. On la voit dans vos yeux qui pétillent. Vous exercez, Sylvie, à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie, l'IRAP, en plus d'être professeur émérite à l'université. Alors ce matin, Sylvie, je vous propose un exercice, celui de nous emmener avec vous, comme un petit rat, comme une petite souris, dans votre laboratoire. Qu'est-ce que vous faites dans ce laboratoire? On y trouve quel instrument?
C'est vrai que le métier d'astronome a tellement évolué tellement rapidement que les gens l'imaginent très différemment de ce qu'il est en réalité. Dans un laboratoire comme le nôtre, il n'y a aucun instrument sauf des ordinateurs. Comme il y a un peu partout, dans tous les laboratoires. Les instruments, pour nous, sont ailleurs. Les instruments sont dans des endroits où il y a, où on voit mieux le ciel qu'ici. Vous savez, ici, la nuit, vous savez bien que si vous êtes à l'intérieur, en ville, vous regardez les étoiles, vous en voyez pas beaucoup. Donc, il faut aller ailleurs, là où il n'y a pas beaucoup de pollution lumineuse, là où il fait beau aussi. Donc, ça peut être un peu partout dans le monde, mais surtout beaucoup au Chili pour nous.
Donc, pas de blouse blanche, d'éprouvette, de télescope, de microscope.
Alors, attendez, si il y a des blouses blanches, il y a ce qu'on appelle des salles blanches, et ça, ce sont pour les chercheurs qu'on appelle particulièrement des instrumentalistes, les gens qui construisent des instruments, parce qu'il y en a aussi dans notre laboratoire,
comme
et
Sylvestre
c'est très
Maurice.
Important, comme Sylvestre Maurice par exemple, donc qui a construit, enfin qui était le responsable de la construction de la caméra qui se trouve sur le rover Perseverance sur Mars en ce moment. Pour construire des instruments, eh bien, il faut des salles spéciales, il faut une technologie évidemment extraordinaire, il faut des salles où il n'y a pas de poussière et donc où il y a plus que des blouses blanches en fait, des sortes de tenues presque pas quand même des scaphandres, mais enfin.
Mais
donc il y en a des blouses blanches, il y en a des blouses blanches dans notre laboratoire, mais pas chez moi.
Pas chez vous. Alors vous avez dit quelque chose d'intéressant, Sylvie Vauclair, au tout début de notre entretien. Je vous ai parlé de métier d'astrophysicien, vous avez rebondi sur astronome. Astrophysicien, astronome, est-ce qu'on parle de la même chose?
Alors, en fait, c'est un peu délicat. Il y a souvent une confusion entre les deux. Mais je dirais que l'astronomie, on faisait de l'astronomie déjà chez les hommes préhistoriques, vous savez.
Ouais.
Je connais dans la Vallée des Merveilles, au-dessus de Nice, des dalles gravées avec dessus des dessins qui sont des étoiles, qui sont l'amas des Pléiades. Donc ça, c'est l'astronomie. L'astrophysique est beaucoup plus récent. L'astrophysique, c'est l'étude des objets célestes. Pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire comment ils sont faits, comment ils évoluent, quelle est leur origine, quel est leur avenir. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Et l'astrophysique, comme son nom l'indique, utilise la physique pour étudier les objets célestes.
La physique pour étudier les objets célestes et donc comment elles sont constituées. Hein.
Voilà, c'est-à-dire que maintenant, par exemple, le soleil ou les étoiles, on est capable de dire comment c'est fait à l'intérieur, même si on le voit pas directement. Et ça, c'est-à-dire la température, la densité, la composition et tout ça. Et ça, c'est l'astrophysique.
Alors, vous nous avez dit, il y a plusieurs façons d'exercer ce métier d'astrophysicien, comme Sylvestre Maurice en exerce une en fabriquant des objets. Vous, votre truc, si je puis m'exprimer ainsi, c'est l'évolution de la matière au fil du temps.
Oui, voilà. En fait, ça fait, disons que c'est le fil de ma carrière, ça.
Ouais.
C'est-à-dire, depuis l'origine du monde, l'origine de l'univers, comment se sont fabriqués et comment ont évolué, finalement, les éléments dont nous sommes faits. Puisque nous sommes faits de ces éléments, de ces poussières d'étoiles.
Et ben alors justement, comment vous faites pour observer la matière au fil du temps? Vous travaillez sur la poussière d'étoiles?
Oui, c'est-à-dire que tout est à partir de la lumière. Il faut savoir que presque tout ce qu'on sait en astrophysique vient de l'étude de la lumière des astres. Alors l'étude de la lumière des astres qu'on étudie de toutes les manières possibles. Et quand je dis la lumière, c'est pas seulement la lumière visible à l'œil, mais aussi les autres rayonnements, l'infrarouge, le rayonnement radio et tout ça. Et c'est à partir de cette analyse-là, c'est très puissant, qu'on a énormément d'informations. En particulier, on peut savoir la composition des étoiles. Quand je dis la composition, je veux dire que dedans, il y a les éléments, l'hydrogène, l'hélium, le carbone, l'azote, l'oxygène, tous les éléments que vous connaissez, ils se trouvent dans les étoiles et on peut savoir la quantité.
Et alors la lumière.
On a des étoiles vieilles, on est aussi capable de savoir l'âge des étoiles, donc on peut avoir des idées de l'évolution au cours du temps.
Mais alors l'étoile, il faut quand même qu'on l'atteigne d'une manière ou d'une autre.
Ah bah
vous nous avez dit
qu'il n'y
avait pas de télescope.
C'est elle qui nous
atteint. Moi j'en reste à mon télescope.
Non, attendez, il n'y a pas de télescope dans mon laboratoire.
Ah.
Mais quand on va au Chili, c'est pour observer avec des télescopes.
Vous voyagez beaucoup.
On voyage beaucoup, les astronomes voyagent beaucoup. Il faut dire qu'on voyage moins maintenant. Alors, je ne parle pas de la pandémie, évidemment, ça c'est particulier.
Ouais.
Mais on voyage moins maintenant parce que y a des connexions, hein, c'est comme tout maintenant. On a des connexions mondiales et donc on peut piloter, vous vous rendez compte, on peut piloter des télescopes à distance. C'est possible de piloter depuis l'Europe des télescopes qui sont au Chili. Alors nous, on ne fait pas ça dans notre laboratoire, mais ils font ça à Munich. Et puis il y a l'espace aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a des télescopes envoyés dans l'espace. Et là, les télescopes nous envoient leurs données par des ondes, hein, et on reçoit ça sur les ordinateurs.
Enfin. Et c'est à partir des images envoyées par les informations envoyées par les télescopes que dans votre laboratoire ici à Toulouse, à l'IRAP, vous étudiez ces données, hein, c'est
voilà.
ça ?
Voilà, donc on étudie les données, on fait ce qu'on appelle par exemple, du traitement d'image, c'est-à-dire d'essayer de bien faire ressortir ce qu'on voit dans une image. On fait d'autres techniques, ce qu'on appelle la spectroscopie, ce qu'on appelle tout ça. Tout ça, c'est l'observation. Et puis, on interprète, on essaie de comprendre ces observations. Et ensuite, on propose d'autres observations pour aller plus loin. Donc, c'est tout un cheminement. Et c'est un cheminement international parce que on connaît pas seulement les données qu'on a reçues pour nous, mais on compare ça avec tout ce qui est obtenu un petit peu partout dans le monde, qui est publié.
Il y a un partage de connaissances.
Il y a un partage de connaissances complet et nécessaire.
Et on s'assoit chacun sur les connaissances des autres pour, on se fait la petite échelle les uns les autres.
On s'assoit sur l'ensemble des connaissances du moment.
Est-ce que vous avez fait, il vous est arrivé de faire des découvertes prodigieuses?
Oui, alors dans la vie d'un chercheur, on fait beaucoup de découvertes, mais des petites découvertes, vous savez, qui sont pas spectaculaires. Alors il se trouve que j'ai eu la chance d'en faire une qui est spectaculaire, et ça, oui, et c'était pas volontaire. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant, c'est que très souvent les grandes découvertes sont faites sans qu'on les ait cherchées, elles sont venues par hasard, elles tombent dessus par hasard. On cherche autre chose, puis voilà, on trouve quelque chose d'imprévu, voilà.
Ouais.
Donc là, c'était en 2004, j'étais au Chili avec un de mes étudiants de recherche pour étudier une étoile qui était au centre d'un système planétaire. Parce que vous savez qu'il y a des planètes autour des étoiles, ça on le sait depuis 25 ans maintenant. Des planètes autour de beaucoup d'étoiles, autres que le Soleil, c'est-à-dire nous sur la Terre avec le système planétaire et le Soleil, on n'est pas unique. Enfin, je dis on n'est pas unique au sens... C'est pas le seul système planétaire au monde. Bon, on est peut-être unique en tant qu'être humain sur la Terre, mais ça, c'est autre chose.
C'est un autre débat.
Et donc, on voulait étudier cette étoile centrale d'un système planétaire, parce que c'est important pour mieux caractériser les planètes aussi, de mieux connaître l'étoile. Et on observait ses vibrations, parce que donc, les étoiles ont beaucoup d'étoiles ont des vibrations. Des vibrations de surface, vous savez, qui sont en fait dues à des ondes sonores. C'est du son qui se propage à l'intérieur de l'étoile et qui font vibrer la surface. Et donc, on était parti observer ça. Et ben, on a trouvé quelque chose de bizarre dans nos données. Et il s'est trouvé que cette chose bizarre, c'était en fait une planète, une nouvelle planète. Une planète qui tourne très près de cette étoile, qui tourne en un peu plus de 9 jours. Et alors, c'était assez spectaculaire à l'époque parce que c'était la première fois qu'on trouvait une planète dont on pouvait savoir, évidemment, faut par des calculs, mais que c'était une planète solide. C'était la première. Maintenant, on en connaît énormément. On en connaît des milliers. Mais c'était la première planète solide jamais découverte en 2004. Donc, ça m'a fait un peu de spectacle.
Ben oui, j'imagine. D'où cette page Wikipédia. J'en ai parlé tout à l'heure qui vous est consacrée. Sylvie Vauclair, elle porte votre nom, du coup, cette planète?
Ah non. Ah, alors juste... ça, la question du nom, c'est vrai, souvent, les gens posent cette question. Non, quand on découvre quelque chose, on ne donne pas forcément
elle
son nom.
Elle tombe dans le domaine public.
Et celle-là, elle s'appelle, l'étoile s'appelle Muara, et la planète s'appelle Muara D, avec un petit d, parce que voilà, c'est son ordre dans, dans l'ensemble des planètes. Et donc, en fait, les noms, il y a des objets célestes qui ont des noms, des comètes. Quand quelqu'un découvre une comète, en général, on lui donne le nom de la personne qui a découverte. Et puis, les astéroïdes. Moi, j'ai un astéroïde, par contre, qui porte mon nom. Mais ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça, c'est comme ça. C'est parce que c'est lié, en fait, à la communication que je fais. Je participe à un site qui s'appelle Étoile des Enfants. Et c'est ces gens-là qui avaient, à l'occasion.
Donnez voilà. votre nom. Qui vous plaît dans ce métier, Sylvie? On la voit, la passion qui vous anime. Qu'est-ce qui vous plaît?
Ben je pense que c'est vrai que le fait que c'est scientifique, pour moi c'est important parce que j'ai quand même une fibre scientifique, ouais. Mais c'est pas n'importe quelle science, c'est une science qui ouvre à la découverte du monde, aux origines, à de la philosophie, elle est ouverte à tout cette science, la sociologie, il y a tellement de répercussions, tellement de réflexions à avoir d'une manière générale jusqu'aux êtres humains. C'est la communication, donc c'est ça qui me plaît, c'est son envergure. Envergure, je veux dire au sens ouverture vers
C'est ça qui vous a poussé à vous orienter vers ces études scientifiques et ce métier d'astrophysicienne. Vous le saviez jeune, je m'adresse peut-être à ceux qui nous écoutent, qui ont des plus jeunes oreilles. Est-ce que c'était un attrait pour...
Oui. Alors, je sais que c'est pas tout le monde, mais moi, oui. Quand j'étais enfant et qu'on me demandait ce que je voulais devenir plus tard, je disais prof de maths ou astronome.
Ah oui, d'accord. Donc vous
et
étiez...
quand j'avais 10 ans.
Ça venait d'où, ça?
Oui.
Ça venait d'où?
Mais ça venait, enfin, en grande partie, je pense que ça venait de ma mère, qui aimait beaucoup les étoiles. Sur un autre plan, elle s'intéressait à la mythologie. Et
oui.
Donc, vous savez,
les étoiles
dans le ciel, on les classe, on appelle ça des constellations qui font des dessins dans le ciel. Et il y a une tradition depuis les anciens Grecs de personnages qui sont dans le ciel et qui sont des personnages de la mythologie grecque qui ont été envoyés là-haut par les dieux pour... toutes sortes de raisons très complexes, parce que c'est très complexe la mythologie grecque.
Elle
racontait ça, et voilà, donc on partait la nuit voir les étoiles, donc je pense que ça c'est important.
Ouais, elle vous a transmis sa passion des étoiles, de leur histoire et de toute la mythologie, et puis vous en avez fait la
partie scientifique.
La partie scientifique. On imagine un métier qui n'est pas forcément très féminin.
Écoutez, d'une manière générale, en science, c'est vrai qu'il y a pas le pourcentage des femmes est assez faible, même si ça augmente, heureusement. Quand j'ai commencé, j'ai eu la chance d'être dans un laboratoire. C'était pas ici, c'était à Paris, dont le responsable faisait très attention à ça. Donc en fait, on était beaucoup de femmes finalement comparées à d'autres laboratoires ailleurs et comparées aussi dans le monde.
Ouais.
Ça m'est arrivé donc d'aller en famille à passer du temps aux États-Unis, et là, les gens étaient surpris de voir une femme scientifique.
Vous parlez de la famille, votre mari est présent, on le salue, il est présent avec nous en studio ce matin, il est également astrophysicien, vous êtes pas fille d'astrophysicien, mais vous êtes femme d'astrophysicien et mère d'astrophysicien, donc c'est une passion qui se transmet quand même.
Oui, c'est vrai, tout à fait. Bon, on s'est rencontré avec mon mari quand on était étudiant.
Ouais, et oui, évidemment.
Et puis, c'est vrai qu'on a un fils, Sébastien, qui a fait une thèse en astrophysique et qui s'est ensuite installé une entreprise avec sa femme, qui est aussi astrophysicienne.
Et oui.
Une entreprise, culturelle et commerciale. Il a un magasin où il vend tout ce qui touche à l'astronomie ici à Toulouse. Et puis, il s'occupe aussi de pollution lumineuse. Donc, il a beaucoup d'influence un petit peu partout en France, les parcs nationaux et tout ça.
Et alors, vous disiez tout à l'heure que c'était un métier qui posait des questions philosophiques, peut-être même spirituelles. Qu'est-ce qu'on apprend sur soi quand on travaille à mieux comprendre l'espace, l'univers? On peut imaginer un côté vertigineux, ça rend humble,
oui.
Non?
Alors, c'est très finalement un peu ambigu et paradoxal, parce que la première idée, la première impression qui vient, c'est qu'on n'est rien.
On n'est rien.
Parce qu'on n'est rien, parce qu'on est très peu, vous savez, depuis peu de temps sur cette Terre et une petite planète dans l'espace. Hein. C'est plus comme quand on pensait la Terre au centre du monde et les et étoiles qui tournaient autour de nous, vous voyez.
Ouais.
Donc, on n'est rien, mais immédiatement, on réagit. Enfin, moi, immédiatement, je réagis. Ça, c'est l'idée par rapport à la Terre dans l'espace. Mais en fait, nous sommes très importants. Il faut penser que tout ça, toute cette envergure et tout ça, c'est nous. C'est nous qui découvrons tout ça, c'est nous, c'est notre cerveau, c'est notre découverte, c'est nous qui voyons tout ça, c'est nous qui sommes capables d'imaginer des objets dans le ciel, des échelles de distance et de temps qui nous dépassent de loin, c'est nous. Donc je pense que c'est tout ça, on commence à partir dans une grande humilité, et je crois qu'il faut la garder, la grande humilité, mais quand même, il faut avoir conscience que c'est nous. Donc, nous ne sommes pas rien du tout.
Nous ne sommes pas rien du
tout. Sommes beaucoup.
Une dernière question.
Très important.
Et oui, vous avez raison. Dernière question, on ne va pas se flageller. Sylvie Vauclair, à force de regarder les étoiles, à force de regarder le ciel, l'envie de partir dans l'espace, rejoindre Thomas Pesquet dans sa capsule, ça ne vous a jamais titillé?
Alors, je vais vous dire, j'y ai pensé, mais je vais vous dire non.
Ah.
Non, ce n'est pas pour moi. Parce qu'il faut imaginer, bon, évidemment, si on est dans l'espace, on voit la Terre de loin, par exemple, c'est joli. Et puis, c'est exaltant. Mais faut d'abord pas être claustrophobe. Vous imaginez.
Ah, ouais.
Vous imaginez comment on est confiné. Et puis, je vais vous dire, j'ai eu la chance de faire une époque, juste comme ça pour voir, quelques parties des entraînements des cosmonautes. Et je peux vous dire que c'est pas rien, ça.
C'est pas rien.
Il faut une très bonne santé.
Merci Sylvie Vauclair, elle sera pas dans l'espace mais elle nous propose un très beau livre, La nouvelle symphonie des étoiles, l'humanité face au cosmos, c'est aux éditions Odile Jacob. Merci à vous.
Merci Isabelle.